nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au joie le mercredi 14 avril, il est 8h30, avec moi Corto, salut Corto.
Salut Ben, bonjour à tout le monde.
T'as débloqué ta porte, c'est cool.
Ah oui, là c'était ouf, c'était ric-rac ce matin.
Allez, au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Guillaume, qui est directeur de la Nouvelle Dimension, le festival 48 images secondes commence ce samedi en ligne, on en parle avec lui dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, nous avons mis une super combinaison avec Corto et nous sommes allés au laboratoire du CFPPA, rencontrer Marie de Nomade de Seven, elle fait des escargots et c'était somme toute très intéressant. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence par l'édito Corto.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. Le Sénat a adopté lundi 12 avril une version largement durcie du projet de loi contre le séparatisme. Les débats ont donné à voir la surenchère d'une droite sénatoriale décidée à légiférer tous azimuts, des mariages aux piscines en passant par les terrains de sport, les élections approchent, ça craint. On va le corser ce texte. Bruno Retailleau, sénateur LR, avait annoncé la couleur. Sous l'impulsion du groupe Les Républicains et de son président, le Sénat a voté ce lundi, moins de 2 mois après l'Assemblée nationale, une version largement durcie du projet de loi censé conforter, je cite, « le respect des principes de la République ». Il en a aussi modifié le titre, y ajoutant la notion de lutte contre le séparatisme. En pleine crise sanitaire, les sénateurs ont donc passé des heures à débattre du voile, des piscines municipales, des drapeaux dans les mariage ou des prières à l'université. Bah ouais. Ouais, les étudiants prient juste pour manger en fait en ce moment, hein. C'est tout ce qu'ils font. Au total, la Chambre haute a voté 139 modifications du texte. Une grande partie d'entre elles tend à durcir les détails d'un texte déjà largement répressif. Exemple de la stupidité à l'état pur de cette loi. Les familles dont un enfant est sujet à des absences répétées à l'école pourraient se voir suspendre partiellement ou totalement le versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. Oui, c'est dans la loi séparatisme. Parce que c'est bien connu, c'est à cause des parents qui font pas le job que les gamins se radicalisent. Hein. Et le pire, c'est que cette loi, les sénateurs ne la disent pas raciste. Mais enfin, comprenez mon bon monsieur, c'est bien une population largement musulmane qui ne s'occupe pas bien de leurs enfants et que c'est à cause de ça qu'ils se radicalisent. Alors il faut leur couper les vivres, et puis s'ils bossent, hein, eh ben plus de salaire, mais bon vous savez, ces gens-là, ils ne bossent pas beaucoup non plus. C'est un peu caricatural, mais voilà des propos presque tenus au Sénat un lundi 12 avril 2021. Écœurant, vous avez dit écœurant ? Bah ouais. Et on n'est pas au bout de nos peines. Non, les élections approchent, ça craint grave. Voilà, dans un instant, on parle de tout à fait autre chose, un peu de culture et de cinéma. On écoute d'abord un morceau choisi par notre chère Élodie du groupe Boucan Clan. Le morceau s'appelle « Tant de merde ».
J'oublie le monde dans lequel je suis, je vis, je rêve. Oui, toutes les nuits, je Et quand tu seras mort étouffé, promis pour toi, j'applaudirai. Mais que vas-tu boire quand l'eau ne coulera plus? Les poissons, les moutons ne vivent pas sur du béton. Sans que tu abattes, te remplissent les poumons. En quoi vas-tu croire quand la faune aurait disparu? Mais que vas-tu boire quand l'eau ne coulera plus? Les poissons, les moutons ne vivent pas sur du béton. Sans que tu abattes, te remplissent les poumons.
Nous sommes ce matin avec Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, tu es directeur de La Nouvelle Dimension et quelle bonne nouvelle, le festival 48 images secondes, cher à notre chère contrée, aura bien lieu cette année sous une nouvelle forme. Ce sera sur deux week-ends, dont le premier à partir de samedi à 17h en ligne, on va en parler. Guillaume, déjà bravo parce que ça n'a pas dû être simple, hein, sans aucune visibilité d'organiser cet événement.
Oui, en fait tout l'enjeu c'est d'arriver à pouvoir créer l'événement qui à la base se déroule à Florac pour d'un public qui est quand même beaucoup local, et de pouvoir créer à la fois une édition en ligne qui puisse aller chercher un public bien plus large, puisque toute la France peut participer, mais aussi qui puisse correspondre à l'image qu'on donne quand on fait le festival. Donc on a évidemment proposé à Daniel de venir présenter les séances et d'animer les débats.
Vous avez dû vous adapter. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'organisation de cette nouvelle édition ?
De faire un choix, en fait, tout simplement. de faire un choix de... Alors, annuler, de toute façon, on avait prévu depuis fort longtemps, déjà anticipé depuis presque l'année dernière, la possibilité de développer des outils numériques pour pouvoir faire participer le public au festival. Mm-hmm. On a fait le choix l'an dernier d'annuler l'édition parce que c'était trop court comme délai. Donc là, qui a été un enjeu, c'est de trouver le bon outil en fait pour pouvoir proposer à la fois au public ce que nous on a envie de leur transmettre, et puis que ça soit suffisamment simple et puis que ça ne coûte pas non plus les yeux de la tête. Mmh. Évidemment, en cette période, les plateformes de festivals en ligne se développent et les outils et prestataires aussi, et les budgets aussi. Donc il a fallu on va dire jongler, slalomer entre les différentes possibilités pour trouver celle qui convenait à la fois le mieux à notre fonctionnement et puis aussi à notre budget.
Ouais, parce que alors ce festival, ce sera 5 films à l'affiche ce week-end, des cartes blanches, des rétrospectives, des rencontres, le tout accessible avec un pass à 9€ pour l'ensemble. On va en parler de ces films là encore, mais 9€, c'est votre volonté de mettre un prix abordable et une accessibilité au plus grand nombre.
C'est ça. En fait, le festival a vraiment pu se faire grâce à une subvention qu'on a eue in extremis du gouvernement du Québec. Si on n'avait pas eu cette subvention là qui s'est annoncée en janvier, je pense que ça aurait été compliqué de faire la même chose et surtout de proposer un budget aussi bas. Là, ça nous a permis de créer un événement qui soit à la fois modeste d'un point de vue quantité, puisque on est sur quelque chose qui est en ligne, donc on imagine bien que les gens vont pas se retrouver à 17h devant leur ordinateur et puis enchaîner tout jusqu'au dimanche soir. Par contre, on voulait qu'il y ait quand même une variété dans la programmation. Et puis, on voulait que le public s'intéresse à aller voir des films qui pas forcément les premiers films qui les auraient attirés, mais peut-être d'autres. Et pour les intéresser, c'est le tarif. Et donc, ce tarif de 9€, il correspond à 2,5 films, en fait. Enfin, à 2 films, oui, 2,5 films.
Ouais.
Après, on va pouvoir louer les films à l'unité pour 4€. Donc, tout est fait pour inciter à la fois à prendre cet abonnement, ce pass festival, mais aussi, puisque la plateforme utilisée est celle de notre ciné-club qu'on a développé depuis le mois d'octobre, avec un abonnement annuel à 36€. Donc, on espère, et puis on le sait déjà, que une partie du public va se dire, bah, tiens, je vais m'abonner directement au ciné-club, à la plateforme, vu le tarif, et avec l'abonnement annuel, le pass festival est compris. Donc oui, 9€, c'était volontaire que ce soit pas trop cher. Il faut pas rebuter les gens à aller voir des films devant leur ordi.
Ouais.
Et puis 9€, voilà, c'est le prix de 2 films, donc peut-être qu'ils pourront voir 3 ou 4.
Mmh. Ouais, que je comprenne bien, donc ça veut dire qu'une fois que j'ai le pass pour le festival, je pourrai voir les films que vous passerez ce week-end quand je veux, c'est ça?
Alors, il y a 2 choses, c'est que le pass festival, lui, permet pendant 10 jours de voir les films. Donc là, si on l'achète aujourd'hui, par exemple, il faut rajouter 10 jours, ça inclut le week-end. Mm-hmm. Donc on peut voir les films pendant le week-end, et puis on pourra encore les revoir quelques jours plus tard. L'abonnement annuel du Ciné-Club, lui, c'est un abonnement à l'année, ce qui fait que les films étant sur la plateforme jusqu'au 31 mai, on pourra revoir les films. Mais effectivement, la programmation, c'est pareil, c'est un choix qui est un peu différent, c'est de pas faire une séance unique à une horaire précise, c'est que les films sont disponibles à cette heure-là. Mmh. C'est-à-dire que si je prends le premier film, Il pleuvait des oiseaux, qui sera ce samedi à 17h, si quelqu'un n'est pas disponible à 17h et qui veut le voir à 19h, il pourra, avec le pass festival ou avec l'abonnement annuel. Donc ça, c'est un choix aussi, c'est parce que ces films-là restent dans notre programmation de ciné-club à l'issue du festival. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus la présentation de Daniel Racine, il n'y aura plus le court-métrage et il n'y aura plus le live, évidemment, avec la réalisatrice. Seul le film sera disponible. Mais ça sera tout à fait possible de regarder le film un peu plus tard, en replay, comme on dit, pour pouvoir bénéficier à la fois de l'intégralité du pass qu'on aura acheté, et puis découvrir à son rythme les autres films.
C'est tout à fait clair, j'ai tout compris. Alors justement, tu en parlais, tu l'abordais, le film d'ouverture, c'est ce samedi à 17h, Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, un film de 2019. Là, c'est Trois ermites, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est un film qu'on avait choisi l'an dernier pour le festival. Évidemment, ça n'a pas pu se faire. Donc, on a décidé que c'est le seul film qu'on a conservé pour cette première partie d'édition. C'est un film qui va intéresser tout un tas de gens, puisqu'à la fois, on est sur des thématiques de la cabane dans le bois, ou au bord du lac. Donc, on est sur des images un petit peu d'Épinal du Canada. On est avec des acteurs qui, je pense à Rémi Girard notamment, que certains connaissent, dans Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, ou d'autres films. Donc il y a des grands noms du cinéma québécois, donc ça permet d'identifier aussi. Et puis sur des thématiques qui s'approchent aussi de certaines, à la fois certaines choses de sujets d'actualité, sur la question de la fin de vie, sur la question de l'accompagnement de la fin de vie. Là on est sur une vieille dame qui va rencontrer au fond des bois trois ermites qui ont fait le choix de sortir de la société, d'habiter dans une cabane, et donc soit parce que leur médecin leur avait annoncé un cancer et il leur restait 2 ans à vivre, alors qu'en fait ça fait 20 ans que ça dure, soit parce qu'ils refusaient de se retrouver dans des EHPAD, ou l'équivalent Québec. Donc ça pose tout un tas de questions sur l'évolution de l'homme et les choix à faire. Et puis en dehors de ça, un fond sur l'histoire du territoire où se trouve où se place le film. On découvre aussi des choses. Il y a une espèce de presque thriller sur la trame de fond du scénario. Donc c'est vraiment un film qui est plaisant à tout point de vue.
Ce sera samedi à 17h. Et puis la fin de vie, évidemment, qui est un débat sociétal en ce moment en France. Alors vous êtes toujours à la pointe des nouveautés en France, en tout cas. Une première française avec le film Les Nôtres. Ça suivra ce samedi soir.
Oui, c'est ça. Les Nôtres, pour nous, c'était un choix aussi de donner une visibilité à un film qui n'en a pas eu et qui a été fauché, comme on dit, par l'arrivée de la pandémie. Le film est sorti au Québec 2 jours, je crois, avant le confinement l'année dernière. Et depuis, n'a pas été ressorti en salle. Donc, c'était le film d'ouverture du festival où on se rend chaque année à Montréal. Et donc, c'est un film qui méritait d'avoir une vraie visibilité, tant au Québec qu'ailleurs. Et pour avoir rencontré la réalisatrice et avoir envie de programmer de films dans le cadre du festival, on a sauté sur cette possibilité d'édition pour présenter le film et le montrer comme une première française, puisque le film sera ensuite diffusé sur notre ciné-club, mais n'aura pas de, ni en VOD ni au cinéma, n'aura pas de sortie en France en plus. Donc là on est sur un film avec Émilie Bréhère, que certains ont peut-être vu dans Une colonie, qui lui était sorti en France il y a 2 ans. Et sur l'histoire, alors là, il n'y a pas grand-chose à raconter puisque ça dévoilerait trop l'intrigue, mais sur l'histoire des non-dits dans des quartiers plutôt confortables de la banlieue de Montréal. Et puis, il y a cette jeune ado qui a des secrets et qui ne sait pas si elle doit les dévoiler, et on ne sait pas si elle va le faire parce que ça risque de faire éclater toute une communauté. Et donc, on est aussi sur des sujets d'actualité, on s'en rendra vite compte quand on regardera le film. Oui.
Au Magie d'Internet, avant de continuer sur la prog, hein, après chaque séance, il y aura des interactions possibles avec les intervenants. Bon, l'idée, c'était de garder ce qui fait la force aussi du festival, l'interaction entre le public, les cinéastes, les artistes.
Oui, ça, de toute façon, on n'aurait pas fait le festival sans rencontre en ligne. Donc là, c'est Daniel Racine, notre animateur habituel, qui va animer ses séances depuis chez lui, tout simplement. Et les réalisateurs scénaristes et réalisateurs seront présents. Il y aura 3 possibilités de voir ces lives, et en plus ils seront gratuits et ouverts à tous. C'est-à-dire que si vraiment vous ne voulez pas voir le film, ou si vous l'avez déjà vu par ailleurs, pour une raison X, Y, vous avez la possibilité d'y participer. À la fois, ça sera sur le site du Ciné Club, sur le site du festival, la plateforme de diffusion du festival, avec un chat où on pourra poser des questions par écrit, mais ça sera aussi en Facebook Live et ça sera aussi sur YouTube. En instantané sur les 3 plateformes, ce qui fait qu'on a 3 espaces sur lesquels les gens vont pouvoir poser des questions, non pas à l'oral, pour des questions techniques et pratiques, mais par contre, laisser des commentaires par écrit. Il y aura un modérateur qui va faire remonter ces questions auprès de Daniel, qui pourra les poser évidemment à la réalisatrice ou au réalisateur le cas échéant. Donc pour ça, voilà, on a vraiment hâte de pouvoir faire partager ces échanges qui, eux, sont à des horaires précis. Donc il y a tout à fait possibilité de voir une partie du film, d'arriver en retard et de rattraper par la suite, puisque les films peuvent être voir en replay et de participer à l'échange quand même.
Génial. Retour à la prog, un anniversaire cette année avec un film de Denis Coté qui s'appelle Curling, qui est sorti il y a 10 ans. Alors, le petit speech, c'est Jean-François qui élève seul sa fille de 12 ans et là qui limite les contacts de sa fille avec l'extérieur par peur, par méfiance. Ça fait écho avec le présent, c'est fou. Ça, ce sera dimanche à 15h, je crois.
Oui, alors sur le fait que ça fasse écho avec le présent, c'était pas voulu, mais effectivement, ça donne une petite piqûre de rappel. Curling, c'est le choix, il s'est porté en fait vraiment de faire un travail avec Denis Coté, qui est un réalisateur qui est très connu dans les festivals de cinéma. Certains de ses films sont sortis en France, donc Curling était la plus grosse sortie il y a 10 ans. Deux autres films sont sortis. C'est un cinéaste qui est vraiment très singulier, qui oscille entre des projets financés, je veux pas dire à gros budget, mais avec des budgets plus importants, puis des projets financés quasiment avec la poche, et qui oscille entre fiction et documentaire. Donc là, on est dans sa période, on va dire, fiction, puisque c'est à peu près un film sur deux. Curling, qui a eu des prix à Locarno en 2010 et qui était sorti en France, il avait eu pas mal de coups projecteurs à l'époque, et puis c'était l'occasion de démarrer par ce film-là avec une rétrospective, un cycle de Denis Coté qu'on va proposer sur le Ciné-Club. Donc tous les mois il y aura un nouveau film jusqu'au mois de septembre, et on l'espère jusqu'au mois d'octobre avec l'édition en salle du festival. Là c'est un film qui va encore une fois rappeler on va dire les images un peu d'Épinal qu'on a du Québec, avec de la neige, avec un monde rural, avec très peu de personnes. C'est un film qui est à la fois contemplatif et à la fois très intrigant sur ce personnage qui est un petit peu dépassé par le fait que sa fille grandit et qu'il est un peu obligé de la laisser faire. Donc là, je vous invite vraiment à découvrir le cinéma de Denis Coté par Curling, et ensuite de pouvoir découvrir sur le reste du Ciné-Club. On démarrera au mois de mai avec Elle veut le chaos. Tout est expliqué sur la plateforme, avec une programmation de petits films de Denis Coté qui s'annonce.
Ce sera suivi à 18h par le film Les faux tatouages de Pascal Plante, sorti lui en 2017. D'après ce que j'ai compris, ce film aborde des situations qu'on a tous plus ou moins vécues à la sortie de l'adolescence. C'est un peu ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est un film qui soit autobiographique ou pas, à la rigueur, c'est pas trop la question, mais beaucoup de gens vont s'y retrouver sur de jeunes acteurs, mais de jeunes personnages qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, mais qui vont avoir du mal à rester ensemble sans dévoiler l'intrigue, entre guillemets. C'est un film qui va s'adresser évidemment à la jeunesse, à la jeune génération, mais aussi aux générations plus âgées, puisque voilà, que c'est des situations qu'on a tous vécues. C'est un film qui est le film le plus rock'n'roll entre guillemets qu'on va pouvoir suivre, avec une bande son hyper actualisée. Et donc le Pascal Plante, c'est un cinéaste qu'on aimerait beaucoup recevoir au mois d'octobre à Florac pour son dernier film qui s'appelle Nadia Butterfly, qui faisait partie de la sélection de Cannes l'an dernier. Qui est un film sur des nageuses professionnelles qui font les JO de Tokyo. Donc c'est un film presque prémonitoire, on le saura en août. Le film devrait sortir en France au mois de juillet, et si tout va bien, on devrait le programmer au mois d'octobre à Florac, et puis on l'espère pouvoir recevoir Pascal Plante. Et donc là, c'est l'occasion de montrer Les Faux Tatouages, qui a été diffusé dans 2-3 festivals en France déjà il y a 2-3 ans, mais qui va pouvoir être disponible sur les plateformes de vidéo à la demande à l'issue du festival plutôt en mai-juin, grâce aux Alchimistes, qui est un distributeur cinéma qui distribue pas mal de films québécois, avec lesquels on a travaillé sur Jeune Juliette, avec lesquels on a travaillé sur d'autres films pendant le festival ou autre. Et donc Les Faux Tatouages, voilà, vient d'être acquis en France, et donc c'est l'occasion de montrer ce film de Pascal Plante avant de pouvoir montrer Nadia Butterfly en octobre.
À 18h dimanche, et en clôture, alors on part à la rencontre de Joséphine Bacon, qui est poétesse et réalisatrice. Elle fait partie du peuple Inuit, qui fait partie des peuples premiers originaires de l'est de la péninsule du Québec-Labrador, et plus précisément des régions de la côte nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il y a 2 ans, vous aviez mis les Acadiens à l'honneur, si je me souviens bien. C'est toujours un peu le rôle du festival de nous faire découvrir des peuples québécois qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu en France.
Oui, c'est ça. En fait, on a gardé... donc, Je m'appelle Humain, c'était... il y avait plusieurs raisons à la programmation du film. Outre le fait qu'il sort aussi en France en DVD, en VOD par les Alchimistes, comme Les Faux Tatouages, c'était effectivement l'occasion, avec la thématique qu'on avait commencé à lancer l'an dernier sur l'immersion au Saguenay, et le lien que Florac entretient avec l'Anse-Saint-Jean, que le Parc National entretient avec le Parc National du Saguenay. Et le choix s'était porté sur le fait de valoriser cette région du Saguenay. Donc là, on a gardé ce choix-là, qui va se faire en 2 temps. Ça va être surtout présenté au mois d'octobre, évidemment. Mais en proposant au Festival Regard, qui est un gros festival de courts-métrages au Saguenay, de faire une carte blanche. Donc chacun des longs-métrages va être précédé d'un court-métrage choisi par le Festival Regard. Et puis, Je m'appelle Humain, effectivement, se passe dans des régions proches du Saguenay. On découvre Joséphine Bacon. Pour les gens qui la connaissent pas, ils vont pouvoir découvrir cette poétesse et ce personnage hyper important de la littérature québécoise. Mais aussi Marie-André Gill, qui l'accompagne dans le film, et qui est une poétesse originaire des Premières Nations, et qui est originaire de l'Anse-Saint-Jean, et qui l'accompagne dans le film. Marie-André et Gilles avaient été invitées à Florac, malheureusement elle n'a pas pu venir l'an dernier, donc on avait annulé l'édition. Elle ne peut pas participer à l'échange ce dimanche. Par contre, on espère pouvoir la recevoir à un autre moment. Donc c'est l'occasion de découvrir des personnages, des régions, encore une fois des paysages, comme on le sait que les gens attendent beaucoup ça, des paysages pour le coup du Grand Nord, proche de la toundra. Donc là, c'est un film qui va vraiment attirer aussi beaucoup de monde, puisque à la fois le message porté par Kimbo Bonsawi, la réalisatrice, mais le message porté par Joséphine Bacon est très humaniste, mais la réalisation, les paysages mis en valeur, les images d'archives, il y a beaucoup d'images d'archives sur tout ce qu'on va découvrir, en fait, pour les gens qui connaissent pas, du traitement qui a été fait aux enfants des Premières Nations, qui ont été mis de force dans des pensionnats dans les années 30, 40, 50, pour leur couper de leur culture complètement. Donc il y a vraiment un film à plusieurs dimensions, et qui va permettre de faire découvrir au public à la fois la poésie, à la fois ses paysages, et à la fois l'histoire une histoire assez triste du Québec.
Un week-end riche en plein de choses. Le festival 48 images secondes, c'est à partir de samedi en ligne. Pour la modique somme de 9 euros, partez en voyage ce week-end. Toutes les infos, les passes, les bandes annonces, c'est 48imagessecondes.fr ou cinémaquébécois.fr. Vous pouvez prendre votre abonnement aussi à l'année pour 36 euros. Et voilà, enfin, allez-y, quoi. Merci beaucoup, Guillaume.
Eh bien, merci à vous. À bientôt.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter et qu'on aurait oublié ?
Non, c'est parfait.
Eh ben alors, bon c'est festival bon. À toutes et tous.
À très bientôt.
Et rendez-vous en octobre pour une nouvelle session en présentiel cette fois. Oui, 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 on y croit. À bientôt, Guillaume.
Merci, Ben.
Et sachez, pour être tout à fait complet, auditeurs, auditrices, que nous faisons gagner 3 passes pour le festival 48 images secondes pour ce week-end. Alors n'hésitez pas à nous contacter, contact@radiobartas.net si ça vous intéresse, ou sur notre page Facebook. Allez, dans un instant, on part au labo du CFPPA. On écoute d'abord un peu de douceur, Ryan and Giddens, le morceau s'appelle Wayfaring Strange.
Traveling through this world alone, there is no sickness, toil, or danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way's rough and steep. With every deed shall ever sleep. I'm going home to see my mother. I'm going home no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going.
On est au laboratoire du CFPPA. Dans ce truc, on est fringué, je crois qu'on est bon pour une attaque du soir. Pas de soucis.
Ça va tout là.
Bonjour. Et du coup, voilà, on va aller voir Marie qui fait des escargots. Ça s'appelle Nomade des Cévennes.
Bah allons-y gaiement, ma foi.
Allons-y gaiement. Alors on va passer au nettoyage de bottes. On est totalement désinfecté. Et c'est parti.
Là-bas, je t'avais dit quoi, deuxième porte à gauche?
Oui, j'ai une mémoire.
Là. Bonjour. Salut.
Salut Marie.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Oui, ça va. On est un peu dans le
rush.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Corto, Marie, c'est le nouveau technicien de la radio.
C'est le nouveau quoi?
Technicien.
Ah, regarde.
Là, ça y est, tes escargots, t'en as mis combien, là, tu sais, à peu près?
Là, j'en ai mis 45 kilos.
45 kilos?
Du coup, 45 kilos, ils font à peu près 400 grammes chacun, quoi.
Enfin là c'est un peu tout mélangé quoi, parce que c'est pour faire des genre du pâté si tu veux. Des okay. trucs à tartiner.
Et là tu les cuis avec quoi là?
Avec des carottes, des poireaux, du thym, du sel, du poivre et un peu de vin blanc. Et voilà. Mais là, en fait, si tu veux, ils sont morts déjà l'année dernière. Et ils ont été décoquillés, blanchis, surgelés. Et là, on revient faire la session peau, quoi. Donc, ils font... C'est juste une pré-cuisson, si tu veux. Parce qu'après, ils restent dans le pot quand tu les passes à l'autoclave. Uh-huh. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
On va les voir après.
Et ben, la grosse machine, là, pour les stériliser, si tu veux, les peaux, ils restent deux heures dedans. Donc, il n'y a pas besoin qu'ils soient cuits, quoi. Je ferme,
ouais.
Si tu permets. Parce que déjà que ça a du mal à partir à bouillir, tu vois, ça fait une heure et demie qu'on est là.
Ouais.
Ça bouille toujours pas.
Bon, et comment ça s'est passé pour toi cette année bizarre?
Bah, c'est un peu chiant, quoi, comme tout le monde. Après, j'ai... Enfin, ça m'a pas impacté, j'ai l'impression, au niveau vente, quoi, parce que on a quand même vachement... Enfin, moi, je vais en local, et les gens, ils ont quand même mangé. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Moi, c'était plus, les aléas climatiques, les oiseaux, les petits rats. Si, l'année dernière, ça a été pas très bon, ouais.
Les rats, ça peut faire du dégât.
Les rats, il y a des campagnols. Après, les campagnols, bon, ça mange pas des escargots, mais ça fait des petits terriers partout, enfin des petits tunnels. Du coup, après les musaraignes, elles passent dedans, après elles mangent les escargots, ouais, c'est bon. Tu veux, l'hiver d'avant, 2019-2020, il n'a pas été froid. Je pense que ça a permis à tous ces petites bestioles de survivre plus facilement. Après, d'un autre côté, moi, ça m'a permis d'avoir des escargots, les fonds de parc, là, ceux qui étaient nés, ils arrivent toujours à se reproduire un peu, qui n'étaient pas morts, donc c'était bien aussi. Même si c'est pas l'idéal, quoi. Parce qu'après, quand tu sèmes, il y a des petits partout et ils te bouffent tout, quoi. Mais bon, ils m'ont sauvé l'année, quoi, ceux-là, finalement.
Et si là, rappelez-nous, c'était lui, il y a déjà 2 ans à la radio. Hein. Ça fait 2 ans déjà.
Je sais plus, ouais. Peut-être où. Longtemps.
C'est vrai, c'était
jadis.
Ça fait combien de temps maintenant que tu fais les escargots?
Depuis 2018.
T'es venu directement ici au
ouais.
CPPA ou là-bas?
Oui.
Ça coûte combien comme ça, les sessions ici?
Là, c'est... écoute, c'est écrit sur la porte là-bas, tu regardes en sortant, je crois que c'est 100 euros hors taxe, quelque chose comme ça. Ouais.
C'est quand même largement abordable, en fait.
Ah oui, il est vachement... Ouais, non, il est pas très cher. Hein. Après, j'ai pas de comparaison. Mais c'est quand même super abordable. Après, c'est pub, c'est un établissement public, donc je pense que c'est aussi pour ça que le prix reste abordable. Je crois que c'est 100 euros hors taxe. Tu me mets le doute maintenant. Ouais, ça se trouve, c'est 200. Enfin, je veux dire, c'est pas 1000 euros la journée, quoi.
Et c'est où les élevages?
Mes élevages sont au bord du Tarn. Ils sont cachés. Personne ne les voit.
Il y a des voleurs?
Non, il n'y a pas des voleurs, mais j'ai pas trouvé mieux comme terrain. Donc, ils sont en bas d'une châtaigneraie. Il faut 4x4 pour descendre ou des jambes. Les jambes, c'est pas mal. Mais du coup, il n'y a pas trop de passage. Et c'est vrai que ça se voit pas. Après, dans ce sens-là, ça m'arrange. Qu'il n'y ait pas. Tout le monde qui passe dedans. Après, des voleurs, moi, on me l'a déjà dit, ça. Il y a des gens qui m'ont dit oh, on va vous en voler. Et en même temps, je peux pas les compter, quoi, si tu veux. Donc, je sais pas. C'est vrai que l'année dernière, du coup, ma perte, ça se trouve, j'ai eu des voleurs. Mais enfin, ça m'étonnerait. Enfin, les gens qui volent des... Si jamais on volait des escargots, on vole des escargots, je sais pas, tu imagines, t'es fan d'escargots, t'as envie d'en voler. Tu vas voler quoi? 10 douzaines, 20 douzaines. Mais tu ne voles pas, moi, l'année dernière, j'en ai mis 80 000. Tu voles pas 80 000 escargots. Ou alors, après, les voleurs, parce que ça se fait, hein, mais c'est des gens qui vont voler chez toi des escargots déjà décoquillés, les peaux, les escargots déjà préparés, quoi. Et puis eux, après, ils les font passer... Donc c'est en général, j'imagine, un héliciculteur qui vole un autre héliciculteur. Oui, c'est pas super toi, la personne lambda qui essaye de refourguer au marché noir des escargots. C'est compliqué, tu vois, comme truc.
Ils sont stockés dans quoi, du coup? Enfin, c'est...
Mes escargots?
Ouais.
Dans les parcs?
Ouais.
Eh bien, ils sont donc... moi, je suis en bio, donc ils sont en extérieur. Il y a un filet à escargot. En fait, c'est un filet très, très fin, à maille très fine, donc ils ne peuvent pas passer à travers, qui est, je sais pas moi, à 40 cm du sol. Enfin, c'est planté dans le sol. Un filet, quoi, tout autour. Ça fait un carré, enfin un rectangle, précisément. Et en haut de ce filet, il y a 4 petites... on ne sait pas, des fils, c'est des conducteurs électriques, enfin c'est comme des fils, si tu veux, sur 4 étages. Donc, tu as une terre, un plus, une terre, un plus. Donc, quand ils touchent une terre et un plus, ils se prennent un coup de jus, ils redescendent.
Donc c'est genre, ouais, c'est des enclos, quoi.
Hein ? C'est des enclos, escargots, ouais, voilà. C'est des enclos escargots, c'est ça. Une prison à escargots.
Juste aux idées reçues, un escargot, ça va très vite.
Ça va quand même assez vite, ouais. Surtout quand ils ont décidé de tous s'en aller, et qu'ils sont plusieurs, et qu'il faut que... genre 3-4 000 à vouloir décider de s'en aller, là, tu vois bien que finalement, t'aimerais bien qu'ils aillent moins vite.
Tu nous montres l'autoclave ?
Ouais, alors l'autoclave. C'est l'autoclave, donc ils en ont 3 ici, je crois, 2 petits et un grand. Voilà, t'as le plus petit, là. Donc dans le grand, je crois que tu mets 120 kg de produits, quelque chose comme ça, ou 180, je sais plus ce qu'il m'a dit Camille tout à l'heure, et dans le petit, 70 ou 75. Donc moi, le but, là, cette fois, c'était de remplir celui-là. Je ne sais pas s'il sera rempli. J'ai mis le pot à faire, mais il y a des petits aléas de machines qui ne fonctionnent pas. Voilà, ah oui. Ça arrive. Donc voilà. Donc en fait, c'est une grosse, comme une grosse cocotte minute, en fait, où tu montes le produit en température et en pression. Donc moi, je sais que pour les escargots, donc, vu que l'escargot, c'est réputé pas très stable, ils font un cycle, je crois que c'est 2 heures à 100... Je sais plus combien ils font, 110, c'est pas 110 degrés, mais 107 ou quelque chose comme ça.
Pour les stériliser.
Ou peut-être plus d'ailleurs. Pour les stériliser, oui. Parce qu'en fait, quand tu fais de la stérilisation maison dans, tu sais, l'espèce de ce qu'on appelle des stérilisateurs à la maison, en fait, c'est pas une stérilisation, c'est une pasteurisation. Ouais. Puisque tu ne montes jamais au-dessus de 100 degrés. Donc là, pour qu'elle monte, la température, on agit sur la pression.
Et alors, excuse-moi, tu disais, l'escargot n'est pas très stable, c'est ça que tu dis ?
Bah, c'est réputé pour être un produit qui a besoin d'un traitement thermique long. Je sais que la châtaigne, c'est aussi, a priori, c'est pas stable. Donc là, le but, c'est qu'à la fin de l'autoclavage, donc ici, ils font des tests de stabilité. Donc ils vont prendre de plusieurs pots. Ils leur font, il y en a qui vont mettre en étuve à 37 degrés, d'autres à température ambiante, d'autres un peu plus chaud, un peu plus froid. Et ils restent une semaine et ils vérifient à la fin que l'acidité, enfin le pH a pas bougé, qu'il n'y a pas de gaz qui s'est formé, etc., pour voir que le produit, il est stable. Et que le traitement thermique a été efficace, c'est-à-dire que ça a détruit toutes les germes et bactéries.
Et après ça, ils te filent un papier qui atteste que c'est bon ou...
C'est ça. Bah, en fait, à chaque nouvelle recette, ils font un test de stabilité vraiment complet qui prouve que ta recette avec ce traitement thermique et ta façon de procéder, elle permet d'avoir un produit stable. Et ensuite, à chaque fois que tu reviens et que tu refais la même recette... Par exemple, là, j'en fais à l'ail des ours, donc ça fait plusieurs fois que je le fais. Ils vont juste prendre quelques pots échantillons pour voir que l'autoclavage a bien été un succès.
Et tu les tues où ?
Je les tue là, ici.
Tu vois ?
Mais là, il n'y en a pas à tuer, là. Ils sont déjà morts.
Ouais, ils sont déjà morts, mais si on peut voir, là.
Bah, en fait, je les tue ici, dans la même cuve. En fait, quand je les tue, je fais bouillir de l'eau, là. Donc, je ne sais pas combien de litres ça fait, là. Ça doit faire au moins 100 litres, 80-100 litres. Ils sont dans des filets où ils sont en train de jeûner et je les jette dans l'eau bouillante. Donc ça dépend combien on est à m'aider, hein, par 2-3 000 à la fois. Je les laisse 4 minutes, 4 minutes 30. Je les sors, après on les rince pour enlever, bah, parce que comme ils ont jeûné, c'est pas très propre, hein, y a tous les excréments, etc. Et après on les décoquille un par un. On les pare, c'est-à-dire qu'on enlève l'hépatopancréas, le bout du tortillon. Après, on les rerince. Et après, on les blanchit 20 minutes. Donc, en fait, c'est très long.
Fastidieux, ouais.
Voilà. Alors que sur les petits gris, ça, c'est des gros gris. Moi, que je fais le petit gris, tu n'as pas besoin d'enlever l'hépatopancréas. Tu peux le faire cuire direct dans sa coquille et les gens le mangent comme ça. Tous les gros escargots, il faut enlever l'hépatopancréas, qui est quand même un endroit où ça accumule tous les métaux lourds.
Et justement, la question est peut-être stupide. Est-ce qu'on peut en faire en toute saison ?
C'est-à-dire les élever en toute saison ?
Ouais, parce que ça a besoin quand même d'une humidité.
Alors, tu peux élever du petit gris en toute saison, même si l'hiver, je veux dire, logiquement, ils ne vont pas trop se reproduire. Après, avec le réchauffement climatique, tout est bizarre. Mais le gros gris, il est gélif. Donc, moi, il meurt l'hiver si je les laisse dehors. Enfin, ça, c'est la théorie. Hein. Dans la pratique, moi, là, j'ai une collègue, mais elle est à côté de Nantes, elle les a laissés dehors. Et puis...
Ils sont passés.
Bah, en fait, c'était son choix. Enfin, si tu veux... Elle les a ramassés, elle les a mis dans un petit parc plus petit pour pas qu'ils mangent après ce qui pousse ailleurs. Et puis voilà, ils meurent pas tant mieux. Mais moi, les miens, je les ai mis dans le garage quand même pour me dire, et voilà, ils ont quand même plus de chances de survivre. Donc là, j'ai des fonds de parc. Après, survivre, t'as tout quand même vachement de mortalité. Là, ils hibernent depuis novembre, hein, donc ça fait long sans manger. Donc là, fin de semaine, faut que je finisse vraiment un petit bout de parc pour les, au moins pour les relâcher. J'attendais qu'ils fassent meilleur et puis que j'ai le temps.
Il y a un surgélateur ici ?
Il y a un surgélateur, ouais. Je sais pas où il est rangé, mais il y a une espèce d'armoire. C'est comme une armoire, avec des étages. Et ça surgèle, donc ça descend à moins 40. Enfin, je sais pas, ça pulse de l'air super froid. Et ça te surgèle tout en quelques minutes, surtout faire des escargots. Bon, quand c'est des seaux que je dois surgeler, c'est plus long, mais ou des paquets d'escargots comme là j'ai mis à cuire. Mais si c'est des escargots en coquille ou quoi, ça va super vite. Ouais.
Voilà.
Ouais. Bah après, t'étais jamais venu là ?
Jamais. C'est un grand problème.
En fait, là, du coup, t'as le côté viande. Donc là, c'est animal. Et de l'autre côté du couloir, c'est végétal. Donc si tu fais de la soupe de légumes, ils vont te mettre là-bas. Si tu fais du pesto de l'ail des ours, c'est là-bas. Ici, c'est tout ce qui est viande. Enfin, carné, quoi. Donc là, c'est tout ce qui est préparation. Les gens qui vont faire des rillettes, des plats en sauce, voilà, etc. Et puis après, de l'autre côté, là-bas, c'est l'atelier découpe. Donc ceux qui viennent pour faire du poulet sous vide, enfin, des blancs de poulet, tu vois, ils découpent leur viande, ou ils découpent leur vache, et puis le lendemain, après, ils viennent là et ils font des plats, etc. Et là, normalement, c'est la légumerie, donc c'est là où tu nettoies tes légumes, et là, c'est le coin où tu fais la vaisselle.
Voilà. Et tu viens combien de fois par an ici au labo ?
Ça dépend.
De ta production ?
Ça dépend de ma production, ça dépend en quoi elle va passer.
Et 3 ans, si tu faisais un bilan un peu de ton activité, t'es plutôt content. Est-ce que tu t'attendais à ça, il y a 4 ans maintenant,
ouais.
Est-ce que tu t'attendais vraiment à un truc comme ça ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va ?
Bah écoute, ça va. Après, tu t'attendais, ouais, je m'attendais aux aléas climatiques, etc. Je m'attendais à trouver un terrain plus propice, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que... Moi, ça me pénalise parce que bah, pour faire visiter les parcs, c'est compliqué. J'ai pas l'électricité, donc je suis sur solaire, donc ça limite aussi. Pour agrandir, c'est pas l'idéal non plus. T'es dans la forêt, il y a des oiseaux. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. Après, je suis très contente qu'on m'ait prêté ce terrain. Et y a des gens qui cherchent et puis qui trouvent pas rien du tout. Donc c'est quand même mieux que rien. Mais c'est vrai que si j'avais, tu vois des fois les prés là autour de Florac, tout plat, tu te dis, bah, dis-moi, j'en veux juste un petit bout. Tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Enfin, moi, 2000 mètres carrés, c'est bon, hein, un grand jardin, quoi, finalement. Mais ça reste l'accès à la terre, c'est compliqué.
Ça, c'est sûr. En tout cas, le message est lancé, c'est ton jardin.
Oui, oui, le message est lancé, n'hésitez pas. Je suis là. Après, j'achète, je loue, peu importe, mais sinon, oui, en termes d'activité, bah, moi, je suis contente parce que c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire de pas avoir tout le temps les mêmes tâches à faire, d'être dehors. Je fais de la cueillette aussi, c'est sympa. Non, c'est bien.
Et pour finir, on peut te retrouver où ?
Tu peux me retrouver à la boutique des paysans qui est à côté du PMU, qui est fermée, le PMU, mais la boutique est ouverte. Et puis l'hiver, là j'ai jusqu'à février, j'ai vendu devant le bouchon Sévenol tous les dimanches. Et après, bah, les marchés de Noël, ces trucs-là. Et là, l'été, juillet-août, tu fais le marché de producteurs le dimanche matin, bah, devant la maison des paysans. Là. C'est un petit marché sympa où il n'y a que des producteurs locaux, quoi.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps.
Merci. Je vais m'y mettre.
À bientôt, Marie.
À bientôt, salut.
Merci.
Voilà, si vous avez un terrain pour Marie, tous les contacts de sa boîte Nomade des Cévennes sont dans un instant sur notre site, sait-on jamais. N'oubliez pas également, auditeurs, auditrices, que nous faisons gagner 3 places pour le festival 48 images secondes. Il vous suffit juste de nous envoyer un petit mail, contact@radiobartas.net. C'est la fin de cette matinale, merci Corto.
Bah de rien, aujourd'hui c'était pas spécialement dur.
Non, quand on travaille en amont, tout va bien. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve évidemment lundi. On va se quitter avec un morceau de la Oystar. Ce sont des anciens de Machilia Sound System. Le morceau s'appelle Du vin et du boucan. Pas question de passer une vie à la con, tu m'étonnes. Allez, prenez soin de vous, à lundi, ciao.
Il a bataillé toute sa vie, noyé par les taxes et les soucis. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Sa femme a fini par partir. Non, 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 pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Lui il faisait les fruits dans l'accro, cerise, pêche, poire, abricot. Un beau matin, il a tout jeté à l'entrée d'un supermarché. Non, 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 pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan.
Oh les gars, je vous rappelle que vous dormiez, c'est pas l'heure. Ne nous laissons plus emmerder. Les tricus sont à nos portes. Laissons-les dehors. Prenons le temps de lire. Soyons pour les gars et fermes. Parlons, chantons, dansons, mixons-nous. N'ayons pas peur de l'avenir et de la différence. Et tous ensemble, on fait bloc sans promet de méchantes joutes. Et si t'es pas d'accord, va à Lourdes.
20 ans qu'il travaillait au quartier, à la chaîne au chocolat au lait. Un beau jour le patron s'envola, un liquidateur arriva. Non, 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 pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Non, 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 pas question de mener une